Si, j'ai fait une étude très, très approfondie de ces choses. J'ai étudié d'ailleurs l'histoire depuis la plus grande antiquité jusqu'à nos jours, et j'ai étudié l'évolution des religions, des origines des religions, y compris l'origine du catholicisme et beaucoup d'autres choses. Ça va très très loin, ça va jusqu'à Babylone. Et là, Nimrod avait une femme qui était, selon la mythologie ancienne, très belle, très débauchée, très méchante. Nimrod a été tué, nous ne savons pas exactement comment, on le pense par un acte de Dieu, par une grande catastrophe naturelle. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui en Irak, tout près de Babylone, si vous êtes sur les ruines de l'ancienne Babylone, où j'ai été pendant la guerre, on peut voir à travers la plaine une tour. Quand on s'approche de cette tour, que les Arabes appellent encore aujourd'hui la tour de Nimrod, et qui était peut-être la tour de Babel, autrefois, nous ne savons pas effectivement, on voit que cette tour qui était construite en briques à l'extérieur a été frappée par une conflagration tout en haut qui ne pouvait même pas être un coup de foudre puisque la foudre ne pourrait pas opérer une telle catastrophe. Même les briques ont été fondues et fusionnées par ce quelque chose qui est descendu du ciel dessus. En tout cas, cette femme de Nimrod a survécu Nimrod et a mis au monde un enfant qu'elle prétendait être la réincarnation de Nimrod. Donc les hommes qui ont commencé à adorer Satan adoraient aussi Nimrod après sa mort, comme mettant la représentation sur la terre de ce dieu caché, donc le serpent, qui était vraiment le sauveur des hommes et qui apportait la connaissance du bien et du mal, entre autres. Et les hommes ont commencé ensuite à adorer carrément Nimrod, qui a été adoré sous le nom de Marduk et beaucoup d'autres divinités d'Antiquité, et sa femme, Semiramis, et leur enfant. Et dans les différents pays du monde où cette idolâtrie est partie, d'ailleurs c'est arrivé même jusqu'au Mexique, jusque dans les îles Pacifiques, on trouve les traces de tout cela dans toutes les idolâtries du monde. Le culte de cette fausse trinité de ce soi-disant Dieu avec sa femme et l'enfant qui est la réincarnation du Père, on retrouve ça un peu partout. On le retrouve en Égypte, en Asie mineure, etc. Et de plus en plus, les gens adoraient plutôt la mère de cet enfant, la femme de Nimrod, comme aujourd'hui on adore plus Marie que Jésus, au même Dieu le Père. Et au IVe siècle de notre ère, lorsque l'Empire romain se convertit par force par l'empereur Théodose Ier, vers l'année 400, alors que pendant le siècle précédent, depuis Constantin, il y avait une conversion progressive des païens au christianisme. Enfin, finalement, tout ce paganisme de l'Antiquité que Rome avait ramassé des quatre coins de la terre alors connue et qui était centré sur Rome, tout cela est entré dans l'Église chrétienne et a complètement déformé le christianisme. Et le Moyen-Âge était un conflit entre ces deux choses. Le vrai christianisme que quelques hommes fidèles et qui copier et étudier encore la Bible dans les monastères, etc., qui essayaient d'apporter la lumière, le vrai évangile de Christ dans les nations païennes de l'Europe après la conquête de Rome par les barbares, et ce paganisme qui finalement a noyé ce christianisme dans un occultisme qui a duré jusqu'à nos jours dans bien des cas. Eh bien, c'est curieux comme les éléments de cet ancien paganisme sont restés, ont persisté, même quelquefois dans les milieux évangéliques. Et pour beaucoup de chrétiens, surtout dans les pays protestants, où on a rejeté et oublié cet ancien paganisme, en grande partie, la croix est devenue, ou est restée plutôt, un symbole précieux, sacré, qui rappelle l'amour du Christ, etc. Alors il est difficile de savoir exactement quelle attitude prendre devant ça. Même dans beaucoup d'églises évangéliques, on voit au-dessus de la chair une croix. Est-ce qu'il faut garder ça? Est-ce qu'il faut l'éliminer? Personnellement, je suis toujours mal à l'aise avec ce symbole. Parce que pour les premiers chrétiens, la croix était non pas quelque chose de beau et de sacré, mais c'était l'instrument horrible avec lequel le Dieu de ce monde, Satan, a torturé le Fils de Dieu et l'a mis à mort. Et lorsque Jésus a été crucifié, il a été cloué justement sur une croix qui était le symbole de Satan, de son culte, le culte de Satan. Et la Bible dit que Jésus a été fait malédiction pour nous. Et dans la loi de Moïse, il est écrit « Maudit est celui qui est suspendu à un arbre ». Et la croix, dans l'Antiquité, c'est le symbole de l'arbre. C'était aussi le symbole de la sexualité. C'est une autre chose. Dans le culte païen, n'est-ce pas? En tout cas, ça c'est, je vous dis cela, je ne sais pas pourquoi, je n'avais aucune intention de parler de cela, mais il y a beaucoup de choses à vous revoir dans notre vie. Nous avons chacun à nous sonder sur ces questions. Et puis, alors que Scott parlait, un verset est venu à mon esprit, justement dans Galates chapitre 5, où il est parlé des œuvres de la chair, on parle de la magie ou de la sorcellerie. Savez-vous quel est ce mot en grec? C'est le mot pharmacie. Pharmakoia. Pharmakoia en grec veut dire tout simplement l'étude et le culte et l'emploi des drogues. Et la magie pour les gens de l'Antiquité et la drogue, la sorcellerie, tout cela allait ensemble. Et on sait très bien aujourd'hui que la drogue ouvre la fenêtre de l'âme pour recevoir des influences sataniques. Et très très souvent, la possession commence par la drogue. Il y a d'autres moyens par lesquels le diable ouvre la porte aussi chez les gens, avec la méditation transcendantale, etc., avec la répétition interminable des mantras hindous. Finalement, l'âme est réduite à un état de passivité, la volonté est complètement éliminée, et c'est alors qu'un mauvais esprit peut entrer et posséder cette personne. Et c'est ce qui arrive très très souvent. Et les religions de l'Orient, d'ailleurs la plupart des fausses religions dans ce monde, fondent beaucoup de leurs pratiques sur cette réduction de l'âme, de la psyché de l'homme, à un état de réceptivité, de passivité qui permet qu'un démon prenne possession. Naturellement, dans ces pays-là, on ne pense pas que ces démons soient forcément des êtres néfastes. Et dans la langue grecque, le mot démon, daimon, et le mot théos, ou dieu, si vous voulez, étaient considérés comme pratiquement équivalents. On appelait Jupiter, Apollon, Vénus, des démons aussi facilement que des dieux, n'est-ce pas? Dans la Bible, les auteurs de la Bible ont fait une distinction très nette entre ces deux choses, alors que la Bible emploie aussi le mot théos, donc dieu, aussi dans le mauvais sens. On parle des faux dieux, le dieu de ce monde, qui est Satan, etc. Mais quand on entre dans le royaume de Dieu, Dieu nous sauve merveilleusement de tout cela. Une fois qu'on confesse son péché à Dieu, on accepte le pardon, le sang de Christ, et généralement Dieu nous délivre d'un seul coup de toutes ces choses. Mais souvent par ignorance, ou parce qu'il y a quelque chose qui empêche que nous nous donnions complètement au Seigneur, il reste des liens et des traces. Et moi je considère que tous ceux qui sont sortis de ce monde pour entrer dans le royaume de Dieu, font bien de demander à Dieu s'il ne reste pas des liens ou des interdits ou bien quelque chose qui peut encore donner une entrée à Satan. Vous savez, j'ai entendu il y a bien des années maintenant l'histoire vraie d'un certain homme qui, en Asie mineure, je crois que c'était un Turc, qui a vendu une propriété, il a vendu un champ, mais il a gardé un olivier au milieu du champ. Et parce que cet olivier au milieu du champ lui appartenait, il avait le droit de passer par ce champ autant de fois qu'il voulait. Le champ ne lui appartenait pas, mais l'olivier lui appartenait. Et je trouve que ça, c'est une illustration remarquable qui nous permet mieux de saisir le fait que, du fait que Christ a acheté le champ de notre vie, nous lui appartenons, corps, âme, esprit, mais s'il y a encore un arbre, s'il y a encore même une tige dans ce champ, que nous n'avons pas arraché à Satan, que nous n'avons pas donné au Seigneur, le diable a le droit d'accès toutes les fois qu'il veut. Alors, il est bon de s'examiner et de demander à Dieu carrément s'il y a encore des choses qui nous rattachent à l'ennemi. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse être possédé. Je ne crois pas que l'Esprit de Dieu accepte d'habiter dans le corps d'un chrétien avec le diable ou avec un démon. Mais c'est un fait que des chrétiens peuvent être encore affligés et troublés par des démons et peuvent être affligés par le démon. Et en passant, je voulais dire ceci. Je connais un certain nombre, et j'ai un ami qui connaît beaucoup plus de cas, puisque Dieu lui a donné un ministère spécialisé dans ce domaine, de personnes qui ont reçu une action démoniaque par l'imposition des mains, surtout dans le but de faire parler en langue. Et j'ai eu affaire à un certain nombre de personnes, moi-même, qui sont passées sous la puissance d'un démon, pensant que c'était le Saint-Esprit, parce qu'ils invoquaient le Saint-Esprit, et quelquefois même ils priaient au nom de Jésus, mais pas forcément au nom du Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, parce qu'il y a beaucoup de Jésus. En Espagne, on crie le nom Jésus dans toutes les rues, puisqu'il y a 36 000 Jésus en Espagne, c'est un nom commun. Et il y a des démons qui, quelquefois, quand on arrive à les interroger, quand on fait une cure d'âme, qui disent « Je suis Jésus ». Et quand on leur demande « Quel Jésus ?», quelquefois, ils répondent « Un Jésus de Satan ». Je connais des cas, j'ai même des cas et des autographes et des cassettes de personnes qui, sous l'influence de leur langue et de leur démon, ont confessé des choses comme ça, n'est-ce pas? Enfin, je n'avais pas pensé du tout aborder ce sujet. Mais du fait que ça a été soulevé ce soir, je crois qu'il est quand même bon de dire ces choses. Mais rappelez-vous une chose que le Seigneur Jésus a dite dans Marc, je crois que c'est dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, excusez-moi, mais je crois que c'est quand même assez important. Dans l'évangile de Luc, où Jésus envoie les 70 en équipe pour évangéliser et préparer son chemin, je suis dans le décor aujourd'hui. Merci. C'est curieux. Je vous
dis 17 et 21.
10. Ah, je suis dans Marc, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Alors, au verset 17, lorsque les 70 reviennent après leur tournée de prédication, ils reviennent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis. » Entendons. Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je crois que Jésus prévoit la chute définitive de Satan qui va venir. « Et voici, dit Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Ce sont des images de Satan et de ses anges, de ses démons, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En tout cas, j'ai lu cela pour vous encourager. Je crois que tout chrétien, pourvu qu'il est en règle avec Dieu, pourvu qu'il marche avec Dieu, qu'il confesse son péché, et le Saint-Esprit le contrôle et le remplit. Je crois que tout chrétien a le pouvoir sur ces choses impures. Il arrive malheureusement quelquefois qu'un chrétien tombe sous l'emprise de ces choses, quelquefois par un acte de folie ou par ignorance, et il a quelquefois besoin d'être aidé à en sortir. Et nous trouvons de plus en plus en France actuellement des cas de personnes comme ça. On a reçu une fausse doctrine, on a reçu une imposition de main de quelqu'un qui était déjà sous l'influence d'un tel et tel action, et qui disait « Je vous donne le Saint-Esprit ». Et on a reçu finalement un autre esprit. Alors que Jésus et Jean disent qu'il faut éprouver les esprits. Il ne faut pas s'ouvrir bêtement à tout et à n'importe quoi, n'est-ce pas? Le diable vient, comme dit l'apôtre Paul, déguisé en ange de lumière et en apôtre de Jésus-Christ. Il arrive avec un langage et une terminologie évangélique. Il dit « Je suis le Saint-Esprit ». Mais nous pouvons éprouver les esprits, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de le faire. Mais on l'éprouve, ces esprits, surtout avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et c'est la Bible qui nous éclaire sur la nature de ces esprits. Et de toute manière, nous savons très bien que le Saint-Esprit n'est pas venu dans ce monde pour parler de lui-même, pour se glorifier lui-même, pour demander un culte envers lui, mais, comme l'a dit le Seigneur Jésus lui-même, pour parler de Christ. Et s'il y a un esprit qui nous révèle Jésus-Christ, qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, qui remplit notre vie de Christ, qui nous fait tomber amoureux de Jésus-Christ, et surtout qui nous ramène sans cesse à la Bible et qui fait contrôler, vérifier absolument tout ce que nous croyons, tout ce que nous faisons par la parole de Dieu, eh bien, là oui, nous pouvons croire que c'est le Saint-Esprit. De toute façon, il y a tellement de confusion, d'ignorance sur ces questions aujourd'hui. Dans un sens, je crois que les chrétiens n'ont jamais aussi mal connu la Bible qu'aujourd'hui. Pourtant, il y a des Bibles, des milliers, des millions de Bibles, on imprime les Bibles, il y a je ne sais pas combien de versions, mais le grand malheur de notre christianisme aujourd'hui, c'est que les chrétiens, en général, ne connaissent pas la Bible. Heureusement qu'à Grenoble, à Gap, etc., on vous donne, dès votre nouvelle naissance, le désir et la discipline de lire la Bible sérieusement. Mais dans la majorité des églises que j'ai connues, dans beaucoup de pays, j'ai travaillé dans 25 ou 30 pays au cours de ma vie, et je trouve que généralement les chrétiens ne connaissent pas bien la Bible. On leur dit, oui, il faut lire la Bible, alors ils lisent une petite portion, par ça, par là, mais on ne leur donne pas la vision de lire toute la Bible, d'écouter tout ce que Dieu dit, de permettre que Dieu corrige et enseigne tous les jours de notre vie. On n'enseigne pas cela généralement. Le résultat, c'est que les chrétiens connaissent des morceaux de la Bible, des fragments de la Bible. Et souvent, les pasteurs et les hommes qui enseignent la parole ne connaissent pas vraiment la Bible. Ils ont fait leur école biblique, peut-être. On a étudié à fond un ou deux ou trois ou quatre livres de la Bible. On a appris beaucoup de choses sur la Bible. Mais généralement, dans ces écoles, on n'enseigne pas la lecture de toute la Bible personnellement soi-même. Alors, nous avons besoin de revenir à ces vérités essentielles. Nous avons besoin de revoir tout notre christianisme. Nous avons besoin d'inculquer cette lecture systématique de la parole de Dieu tout entière. C'est absolument nécessaire et indispensable. Sans cela, je ne vois pas d'avenir pour l'œuvre de Dieu en France. Je crois qu'il y a beaucoup de notre christianisme, beaucoup de formes de christianisme aujourd'hui qui permettent à l'ennemi finalement une porte d'entrée. J'aimerais maintenant passer à l'étude qui sera forcément bien raccourcie, parce qu'il est maintenant 9h30 et je ne veux pas que ça traîne beaucoup ce soir. Regardons maintenant dans l'évangile de Luc. Dans le chapitre 18. Jésus maintenant quitte la Galilée pour la dernière fois. C'est le dernier mois de sa vie. Il traverse le Jourdain, il descend par ce qui est actuellement la Jordanie, jusqu'à tout près de la mer Morte. Là, il traverse le Jourdain, en face de Jéricho, la petite ville de Jéricho qui est tout près de la mer Morte. Et là, devant, avant de traverser le Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, il passe par une petite ville, nous ne savons pas laquelle, où un jeune homme vient, verset 18, nous lisons dans un autre évangile qu'il était jeune, il était noble, il était brave, il vient se mettre à genoux devant Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, verset 19, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon ? Tu sais très bien qu'il n'y a qu'un seul bon, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que tu veux dire que je suis le fils de Dieu ?» Le jeune homme ne répond pas. Alors Jésus dit, écoute, si tu veux mériter la vie éternelle, eh bien tu n'as qu'à garder tous les commandements de Dieu dans la loi de Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Et le jeune homme dit, eh bien, j'ai fait tout ça, depuis tout petit. Alors Jésus le met à l'épreuve. Il dit, écoute mon Dieu, cette ferme là-bas, c'est à toi, non pas? Et ce château-là sur la colline, c'est à toi, et tous ces champs, c'est à toi, quand même tu es riche, oui. Eh bien, tu vois tous ces pauvres mendiants par là, ces pauvres gens, ces gens déshérités. Si vraiment tu aimes ton prochain comme toi-même, eh bien, tu vendras ton château et tu commenceras tout de suite à relever ces pauvres gens. Tu ne garderas pas tout ça pour toi. Tu le partageras avec les pauvres. Et Jésus ajoute encore une autre chose, et ensuite, suis-moi. Et tu sais, moi je monte à Jérusalem, et là, les autorités vont me crucifier. Alors le jeune homme, il repart tout triste. Exemple typique de l'homme brave, bonne éducation, bonne instruction, bonne situation, et un type qui vit moralement et qui il veut quelque chose de bien. Il veut trouver Dieu, il veut avoir la vie éternelle, mais finalement, dès qu'il voit les réalités, il se retourne. Il découvre que finalement, il n'aime pas son prochain. Donc il n'a pas du tout gardé la loi. Et il trouve finalement qu'il n'aime pas Dieu de tout son cœur, puisqu'il ne veut pas suivre le Fils de Dieu jusqu'à la croix. Et il se détourne, il part. Jésus ensuite traverse le Jourdain, il arrive dans la petite ville de Jéricho. Et dans la ville de Jéricho, toujours dans ce chapitre 18, verset 35, un aveugle assis au bord du chemin commence à crier, « Jésus, fils de Nazareth, fils de David, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. » Pourquoi est-ce qu'il dit fils de David? Parce que ça voulait dire que ce garçon, cet homme, ce pauvre mendiant, était sûr que Jésus-Christ était le Messie. Tout le monde attendait le fils de David. Tout le monde savait que le Messie descendrait de David. Et les gens disent, oh, tais-toi, pas trop de chahut. Mais il continue à crier encore plus fort. Et Jésus s'arrête. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Et cet homme dit, je veux recouvrir ma vue. Quelle différence entre ces deux hommes? Le jeune homme riche dit, moi, je veux gagner la vie éternelle. Comment faire? Le pauvre mendiant, il n'a absolument rien, il ne possède rien, il veut simplement voir, il veut la lumière. Et Jésus dit, bon, tu guéris. Dans la ville de Jéricho aussi, il y avait cet évangile ne nous dit pas, je crois, aussi. Il y avait un homme estropié, un homme qui ne pouvait pas marcher, et qui a été également guéri par Jésus. Et l'évangile nous dit qu'il a sauté d'un bond, il a glorifié Dieu, il a suivi Jésus en chemin. Jésus a ensuite quitté Jéricho, chapitre 19, verset 2. Et, enfin, là, il a, enfin, ça c'est autre chose, l'histoire de Zachée, ça aussi c'est arrivé à Jéricho. Mais plus loin, verset 21, Jésus a commencé à monter à Jérusalem. Il a un chemin tortueux, raide, qui monte depuis la mer Morte, depuis Jéricho, jusqu'à Jérusalem. Une ascension de 1000 mètres à peu près. Et il fallait le faire à deux dalles ou bien à pied. Alors, Jésus raconte une parabole. La parabole enfin, nous allons lire cette parabole. Et nous allons voir pourquoi Jésus a raconté cette parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître, verset 12, Jésus donc raconte cette parabole. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Et le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu penses qu'il n'est pas à toi, et tu moissonnes ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et lui dit, Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans la banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Et puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Et dire, mais Seigneur, il a 10 mines. Mais Jésus reprend, je vous le dis, en donnant à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Et après avoir parlé ainsi, Jésus marche devant la foule pour monter à Jérusalem. Cet incident est assez remarquable. Une cinquantaine d'années, ou non, plus, je crois une soixantaine d'années avant, Hérode le Grand, qui n'était pas encore roi d'Israël, il est parti de Jéricho pour aller à Rome. À ce moment-là, le petit pays d'Israël avait été conquis par Rome, et c'est Jules César lui-même qui a institué le Sanhédrin. Donc le conseil de 70 chefs, il avait 24 chefs des 24 classes de prêtres, de sacrificateurs descendus d'Aaron. Il y avait 12 anciens représentant les 12 tribus d'Israël, et le reste était composé de scribes de n'importe quelle tribu, dont la majorité était pharisiens, donc très très stricts, et le souverain sacrificateur. Ça faisait en tout 61. Et Israël, donc, était sous la tutelle de Rome, même pour les choses spirituelles. Et Hérode, à la mort de son prédécesseur, voulait devancer ceux qui voulaient aussi bien que lui être roi d'Israël, mais il a fallu qu'il aille à Rome. Il est arrivé 8 jours avant les autres qui voulaient le précéder. Il a vu le Sénat, et avec son charme et sa façon de faire, il a gagné très rapidement le consentement du Sénat, et il est revenu en Palestine, il est revenu à Jérusalem avec l'autorité royale, mais qui n'était pas donnée par Dieu, mais par César. Alors, pas Jules César, puisque Jules César était déjà mort, mais par Auguste, je ne m'en rappelle plus maintenant, excusez-moi. En tout cas, il a reçu de Rome. Ensuite, il a convoqué tous ses amis à qui il avait confié son argent et toutes les responsabilités de ses affaires, et il a récompensé tous ceux qui avaient été fidèles et qui avaient travaillé son argent et qui avaient gagné quelque chose. Et ensuite, il a fait venir tous ses ennemis, parce que les Juifs ne voulaient pas qu'il vienne sur eux. Ils le détestaient. Il n'était même pas juif. C'était il était descendu d'Édom, un Iduméen. Et ils avaient envoyé après lui une ambassade à Rome pour dire « Nous ne voulons pas cet homme ». Et l'ambassade est arrivée une semaine après, alors qu'il avait déjà reçu la royauté. Alors quand il est revenu, il a ramassé tous ces Juifs qui n'avaient pas voulu qu'il règne et il les a tous massacrés. Alors Jésus prend cet incident historique, authentique, comme une illustration. Dans un sens, c'était comme une blague. Tout le monde détestait Hérode, tout le monde savait qu'Hérode était un monstre, un homme unique et épouvantable. Mais Jésus se met un petit peu à la place d'Hérode. Il a dit, écoute, exactement comme Hérode est allé à Rome pour avoir le royauté d'Israël, lui qui était un monstre et Rome qui était une puissance satanique, de même, moi je monte de Jéricho maintenant et je vais partir dans un pays très lointain. Je vais même jusque chez mon Père, dans le ciel. Et en attendant, je vais laisser à mes amis les biens spirituels dont je dispose, donc la parole de Dieu, l'évangile, etc. Et je m'attends à ce que vous fassiez travailler ces choses et que vous gardiez fidèlement mon témoignage pendant mon départ. Mais je vais revenir de ce pays lointain avec l'autorité royale qui me sera donnée, par, non pas par César ni par Rome, mais par mon Père qui est dans les cieux. Et ensuite on va voir. On va voir ce qu'auront fait mes amis de mes affaires, et on verra aussi ce qu'ont fait mes ennemis. C'est marrant. Vous savez, Jésus avait un sens d'humour, et souvent dans son enseignement, il se sert de toutes sortes d'illustrations qui choquent. Mais justement, il employait ces enseignements pour nous faire réfléchir. Et par exemple, il dit « je viens comme un voleur ». Il se met à la place du voleur qui vient prendre les trésors au milieu de la nuit, n'est-ce pas? J'ai employé ce langage pour choquer les gens et pour les obliger de réfléchir. Alors ici, Jésus se sert d'Hérode comme une image de lui-même qui part pour recevoir un royaume et qui revient et ensuite établit un jugement. Alors Jésus a donc, avant de monter à Jérusalem, avant d'être jugé par Hérode lui-même, pas le même Hérode, mais le neveu d'Hérode, puisque Hérode le Grand était déjà mort. Hérode le Grand a essayé de tuer Jésus quand il était tout petit à Bethléem. C'est lui qui a massacré les enfants. Mais, et puis par Ponce Pilate et par le Sanhédrin, Jésus a été jugé par tous eux, il a été condamné à mort. Mais avant, donc, il raconte cette histoire, pour que les disciples comprennent. Et il est intéressant de voir l'enseignement ici. Remarquez que le Seigneur Jésus, dans cette parabole, fait une distinction entre ses serviteurs et ses ennemis. À son retour, il va convoquer tous ses serviteurs, nous autres, et il va nous demander ce que nous avons fait de notre mine. Remarquez que dans cette parabole, chaque serviteur reçoit exactement la même somme. Une mine chacun. Une mine, je ne me rappelle plus exactement combien c'est peut-être 1000 francs. À l'époque, évidemment, ça ne valait pas beaucoup plus. Et il y a une distinction entre cette parabole et la parabole des talents que Jésus raconte en Matthieu 25. Dans la parabole des talents, le maître donne 10 talents à l'un, 5 talents à l'autre, et puis un talent à un troisième. Mais ici, tous reçoivent la même chose. Et c'est vrai, selon la parabole des talents, Dieu nous donne à tous des talents différents. Il y en a d'entre nous qui ont peut-être plus d'intelligence que d'autres, plus d'éducation que d'autres, ou une meilleure santé que les autres, ou une meilleure situation, ou plus d'argent. Et le Seigneur nous donne ces choses afin qu'on puisse les utiliser pour lui. Mais quand il s'agit de cette parabole, Dieu donne la même chose, Christ donne la même chose à nous tous. Eh bien, qu'est-ce que nous avons tous, sinon le salut? Christ nous a donné à tous le salut. Et ce salut a racheté notre vie. Nous avons tous une seule vie à vivre sur cette terre, une seule vie rachetée par son sang. Voilà ce que nous avons tous de commun. Et qu'est-ce que nous allons faire de notre vie? Qu'est-ce que nous allons faire de notre temps? Qu'est-ce que nous allons faire de la foi que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce qu'il va faire de la parole de Dieu qui nous est confiée? Eh bien, voilà. Au retour de Christ, il y aura un jugement. Il y aura même deux jugements. Il y aura notre jugement d'abord, et ensuite le jugement des nations. Jésus parle plusieurs fois de ce jugement. L'apôtre Paul aussi. Si nous sommes fidèles avec le trésor que Christ nous confie, nous aurons une récompense. Et quelle est cette récompense? Dans la parabole des mines, comme dans le récit d'Hérode le Grand, la récompense était une responsabilité dans son royaume. Aujourd'hui, Christ nous regarde attentivement pour voir à qui il pourra confier des responsabilités dans son royaume. On ne donne pas le gouvernement d'une grande ville à un petit gauche. Le Seigneur Jésus nous étudie minutieusement. Il nous aime tous de façon égale. Il a payé le même prix pour chacun de nous. Il ne méprise personne. Mais il cherche les hommes, les femmes également, mais dans le royaume de Dieu, dans un sens, il n'y a ni homme ni femme. Enfin, Dieu cherche les hommes et les femmes qu'il pourra utiliser dans le royaume de Christ. Parce que la Bible nous dit que Christ va revenir et il va gouverner les nations. Non seulement dans la nouvelle création que nous attendons, mais les nations qui sont actuellement sur la terre. C'est ce que je crois. La Bible parle d'un règne de Christ de 1000 ans sur cette même terre. Une fois qu'Israël se repent finalement de son péché d'avoir crucifié le Messie, à ce moment-là, le Christ reviendra. Et nous verrons donc un Israël entièrement converti, et nous, en attendant, nous aurons notre corps glorieux ressuscité. Et nous pourrons collaborer avec cet Israël régénéré, et nous pouvons régner sur les nations avec Christ. Ce sera un immense travail. Il ne faut pas supposer que toutes les nations seront nées de nouveau au retour de Jésus-Christ. Je pense qu'au retour de Christ, il va y avoir énormément de gens qui se convertiront. Et je crois que pendant ces 1000 ans, presque tout le monde fera semblant d'être chrétien. Parce que de toute manière, pendant cette période, nous disons que le diable va être lié et jeté dans l'abîme. Et l'ouverture de l'abîme va être scellée. Évidemment, l'abîme, là, c'est une prison spirituelle. Mais le diable va être éliminé pendant 1000 ans. Et les nations ne seront plus sous l'emprise de ces puissances de ténèbres qui, aujourd'hui, empêchent que les gens se soumettent à la tutelle du Seigneur Jésus. Et nous aurons le privilège et la joie d'aider cet Israël converti à propager la connaissance du Christ à toutes les nations de la terre et aussi à contrôler les nations. Aujourd'hui, les nations sont gouvernées, la Bible dit, par le Dieu de ce monde et le prince de ce monde qui est Satan. Mais en ce jour-là, Satan, avec toute son hiérarchie démoniaque, sera éliminé. Et il y aura un vide spirituel derrière les nations. Il y aura aussi les anges de Dieu, comme aujourd'hui. Mais les anges de Dieu ont le désavantage de n'avoir pas été des êtres humains qui auront vécu sur cette terre, connu la chair, le péché, la tentation et toutes les expériences humaines. Dieu va certainement continuer à utiliser les anges, peut-être beaucoup plus que maintenant, les anges de Dieu. Mais nous aurons l'avantage d'avoir connu toute cette vie humaine et nous serons infiniment mieux placés pour gouverner les nations avec Jésus-Christ que des anges. Et la Bible même dit, Paul le dit à l'église de Corinthe, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? C'est étonnant cela. Mais vous voyez que Christ nous ouvre un horizon extraordinaire. Et cette vie sur la terre aujourd'hui n'est qu'une préparation pour ce moment. Et les ennemis de Jésus-Christ. Hérode a fait massacrer ses ennemis. Jésus ne nous donne pas d'interprétation de cette parabole, il nous laisse tirer nos propres conclusions. Mais c'est un fait que les ennemis de Christ, à son retour, vont être terriblement jugés. Nous ne pouvons pas, pendant ce week-end, entrer dans tous les détails des prophéties bibliques. Mais la Bible parle énormément de ces temps de la fin et du retour de Jésus-Christ. Nous pourrions en faire un camp comme ça de 2 ou 3 mois et encore être loin d'épuiser tout ce que Dieu nous dit sur les temps que nous vivons et que nous allons bientôt vivre, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, qui sont l'accomplissement et le commencement de l'accomplissement des prophéties de la Bible, c'est absolument extraordinaire. Je pourrais vous dresser une liste comme ça de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde et dans l'Église et en Israël qui ont été prophétisées depuis 2000 ou 3000 ou plus ans et qui s'accomplissent sous nos yeux. Et les gens, généralement, sont aveugles, ils ne comprennent pas. Peut-être qu'un jour, on pourra faire des études comme ça ensemble. Vous pouvez voir ça. Mais c'est intéressant. Surtout quand on sait ce qui va arriver. Et que finalement, Jésus-Christ aura le dernier mot. Mais voilà ce que je vous dis en gros, très rapidement ce que je pense, n'est-ce pas? Voilà comment je comprends l'enseignement de la Bible. On n'a pas le temps de chercher toutes les références ce soir. La Bible nous dit que nous allons être enlevés de ce monde par Jésus-Christ. Maintenant, les chrétiens, dans le monde entier, ils sont divisés dans leur interprétation de ces choses. Il y en a qui pensent que, l'Antichrist vient, et puis finalement, après le règne de l'Antichrist, Christ va détruire l'Antichrist, et nous sommes enlevés à ce moment-là. Mais je ne vois pas trop, je ne vois pas ça dans la Bible. Parce qu'il est dit que nous allons être enlevés de ce monde, raptés même à travers les airs pour rencontrer Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est déjà revenu sur terre, comment est-ce que nous allons partir pour le rencontrer? De toute manière, Jésus nous enseigne, et si nous avons le temps, avant la fin du camp, j'aimerais étudier avec vous un peu son enseignement dans sa grande prophétie qu'il a prononcée le mardi avant sa mort, dans Matthieu 24 et 25, où il nous enseigne que, comme Noé a été enlevé et il était déjà dans l'arche lorsque la catastrophe est venue pour détruire le monde avec le déluge, de même, nous serons enlevés de ce monde avant que la catastrophe, la colère de Dieu ne soit déversée sur ce monde hostile et païen et incrédule. Et dans l'évangile de Luc, le Seigneur Jésus ajoute aussi l'illustration de Lot. Et Lot était déjà sorti de Sodome lorsque le feu tombait du ciel sur la ville de Sodome. Et le Seigneur Jésus se sert de ces deux illustrations et il est remarquable de constater que ni Lot, ni Noé n'étaient juifs. C'étaient des gentils, ou païens si vous voulez, comme nous, des non-juifs. Et le Seigneur Jésus prend l'exemple de ces deux croyants non-juifs qui étaient enlevés, chacun à son époque, enlevés du monde pour que Dieu puisse déverser sa colère sur les nations incrédules et rebelles. Et ces deux hommes ont été protégés avec leur famille. Il y a quand même une différence entre Noé et Lot, parce que lorsque Noé était un croyant vraiment fidèle, un homme spirituel, quand il est sorti de l'arche, il a littéralement hérité toute la terre. Comme nous sommes appelés à hériter de la terre avec Christ, et hériter même la nouvelle création avec Christ. Mais Lot, c'était un chrétien charnel, et au lieu d'habiter sur les hauteurs du pays d'Israël, avec Abraham, dans la pauvreté peut-être, et en attendant que Dieu accomplisse sa volonté, il a choisi d'habiter dans Sodome, qui était la ville peut-être la plus unique du monde. Vous savez ce qui est arrivé la nuit avant la destruction de Sodome, lorsque ces deux anges de Dieu sont venus sous la forme de deux hommes pour avertir Job, et bien tous les hommes de Sodome sont venus et ils voulaient commettre la sexualité avec ces deux anges. Et les deux anges ont été finalement... Lot a fermé la porte et les deux anges ont frappé ces hommes d'aveuglement, comme Dieu va frapper les nations d'aveuglement au temps de la fin. Ceux qui rejettent le Christ finalement deviennent aveugles. Ensuite, les deux anges ont dit, c'est dans Genèse chapitre 19, les deux anges ont dit à Lot, dépêche-toi pour sortir d'ici parce que Dieu va détruire cette ville. Et il tardait, il ne voulait pas, etc. Et puis ses gendres se moquaient. Et finalement, les anges l'ont pris par force et ils l'ont sorti avec ses deux filles de la ville de Sodome. Et ils lui ont dit, alors sauve-toi à la montagne, là où est Abraham. Et il a dit, oh, je ne peux pas. Et il a dit, écoute, il y a une petite ville là-bas. Épargne cette ville, et finalement il est allé dans cette petite ville de Zoar. Et au matin, il y a eu une explosion souterraine. Vous savez, dans cette région, autour de la mer Morte, il y a énormément de sel et beaucoup de soufre. Il y a aussi des couches de bitume et de pétrole, où il y en avait autrefois. Et moi, on voit dans ces pays-là, moi j'ai souvent vu ça en Irak et ailleurs, on voit même les flammes à la surface du désert où les gaz qui viennent des couches souterraines de bitume et de pétrole brûlent même sur la surface de la Terre. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une explosion souterraine qui a projeté en l'air des masses de sel et de soufre qui ont été embrasées et qui sont descendues sur la ville de Sodome. D'ailleurs, on voit encore l'endroit où était Sodome aujourd'hui. Et c'est une masse de sel et de soufre. Et vous savez, la femme de Lot est retournée en arrière, elle ne voulait finalement pas partir, et la Bible dit qu'elle est devenue un pilier de sel. Moi, je crois qu'elle a simplement été engloutie par une avalanche de sel, et elle est morte comme ça. Et Lot, finalement, quand il a vu ça, il ne voulait plus rester dans cette ville de Zoar, il est sorti à la montagne, mais il a mené une existence absolument minable, il a vécu dans une caverne, et finalement, ses deux filles qui avaient grandi dans Sodome, et avaient acquis la morale épouvantable, ou l'immoralité plutôt, de Sodome, parce qu'elles n'avaient pas mari, finalement, ils ont saoulé leur père, et elles ont couché avec lui, l'une après l'autre, et finalement, ils ont mis au monde d'autres peuples, les Moabites et les Ammonites, qui étaient par la suite des ennemis acharnés d'Israël. Lot a sauvé sa peau, mais il n'a pas apporté de bénédiction au monde. Et c'est le type un peu du chrétien super charnel qui perd tout sauf sa peau, en quelque sorte. Alors que l'autre, c'est le type du chrétien spirituel qui, finalement, hérite la terre. Et je ne pense pas que tous les chrétiens soient appelés à régner avec Christ à son retour. On sera avec lui, on sera dans son royaume. Mais si je suis encore un petit bébé, après 50 ans de vie avec Christ, Comment voulez-vous que Jésus me donne des responsabilités? Je serai là avec mon jouet, ou je serai encore avec ma mère, et je serai heureux, mais je ne pourrai pas occuper les positions clés qu'il me réserve maintenant. Et dans la parabole, le roi dit à celui qui avait gaspillé sa vie, sa mine, il dit, bon, alors, donnez cette mine à celui qui a 10 villes, donc il va falloir que cet homme gouverne finalement 11 villes au lieu de 10. Et comme aujourd'hui, Dieu a pas mal de difficultés à trouver les hommes pour faire son travail. Je crois que même après le retour de Christ, dans le règne de Christ, il y en aura quelques-uns d'entre vous et d'entre nous qui auront à travailler doublement parce qu'il y a eu des fainéants sur la terre qui n'ont pas accompli qui ne se sont pas préparés suffisamment. Alors Jésus, avant d'aller à la croix, il voulait que ses disciples comprennent très bien qu'il allait partir et qu'il allait revenir. Et qu'en attendant, il fallait qu'on fasse valoir l'évangile qui nous est confié. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Moi, quand je pense que Jésus était un charpentier de Nazareth, qui n'avait jamais fait les grandes écoles. Et c'est extraordinaire, même sur le plan humain, c'était un homme génial. Mais on ne parle pas du génie de Jésus. Nous savons que de toute façon, le Saint-Esprit l'inspirait et lui donnait tout cela.